Bienvenue sur le podcast de Positive Workplace, le label RSE Made in France. Dans ce podcast mensuel, nous aborderons les grands sujets de société et mettrons en lumière les solutions concrètes pour résoudre les principales problématiques sociales, sociétales et environnementales. N'hésitez pas à partager nos émissions à vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Bonne écoute!
Bonjour chers auditeurs, la mode est un secteur en constante évolution qui a un impact considérable sur l'environnement et sur la société. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'industrie de la mode est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui en fait l'un des plus gros pollueurs au monde, juste derrière l'agriculture et l'énergie. De plus, la production de vêtements et d'accessoires de mode implique souvent l'utilisation de matières premières telles que le coton, le cuir ou le polyester, ainsi que des produits chimiques pour teindre et traiter les textiles. En outre, la mode est souvent critiquée pour son impact sur la société et les droits de l'homme. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 75% des travailleurs de l'industrie de la confection sont des femmes et de nombreux rapports ont mis en lumière les mauvaises conditions de travail dans les usines de confection. Cependant, il existe également des mouvements positifs dans l'industrie de la mode qui cherchent à promouvoir une production plus durable et éthique. Ces initiatives incluent l'utilisation de matières premières écologiques, la mise en œuvre de pratiques de travail éthiques et la création de vêtements conçus pour durer dans le temps. En prenant conscience de ces enjeux et en soutenant les marques qui s'engagent dans une démarche durable, chacun peut contribuer à améliorer l'impact de la mode sur l'environnement et la société. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Amélie Flamand, responsable de l'engagement social et sociétal du groupe Rouge-Gorge. Amélie, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ?
Oui, bonjour Charles-Henri, merci de votre invitation. Donc effectivement, je travaille chez Rouge-Gorge depuis 10 ans maintenant. J'ai effectué plusieurs métiers, j'ai longtemps été sur la collection et depuis janvier 21, j'ai la grande chance d'occuper le poste de responsable de l'engagement social et sociétal. Donc c'est une création de poste, donc c'est vraiment une des preuves de l'engagement de Rouge-Gorge et de sa volonté d'aller plus loin sur les sujets RSE.
Et qu'est-ce qui vous a motivé de créer cette fonction ? Est-ce qu'il y avait un enjeu sociétal, business ou autre ?
Alors, Rouge-Gorge a toujours été très engagé, notamment sur le sujet des femmes. Mais on savait qu'il y avait d'autres enjeux, notamment sur les aspects environnementaux, sur lesquels on était peut-être moins présent et moins en avance que d'autres acteurs. Et il fallait qu'on accélère un peu ces changements, cette mutation. Et donc, la création de ce poste a été vraiment le point de démarrage de notre stratégie RSE. Et oui, évidemment, il y a beaucoup d'injonctions qui viennent à la fois de collaborateurs, de nos clients, mais aussi du législateur. Donc, c'est l'ensemble des parties prenantes aussi qui contribuent à faire progresser Rouge-Gorge sur ces sujets.
Alors, justement, vous parliez de parties prenantes. Il me semble que depuis peu, vous êtes lancé dans un programme de labellisation. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous lancer dans ce programme-là ?
Effectivement, nous avons choisi commencer cette démarche de labellisation. En fait, le poste a été créé en janvier 21. Donc, en janvier 23, ça fera 2 ans que j'occupe ce poste. Et à un moment, c'est important de faire un arrêt sur image, de savoir... Ok, voilà où on en est. Est-ce que ce qu'on fait est visible ? Est-ce que ce qu'on fait est bien perçu par nos parties prenantes ? Est-ce que ça correspond à leurs attentes ? Et donc, cette démarche de labellisation a pour but déjà de faire un état des lieux, mais surtout de travailler avec nos parties prenantes sur la suite et peut-être d'ajuster des décisions qu'on a prises ou voir si en tout cas on est dans la bonne direction.
Justement, on va pouvoir rentrer un peu plus profondément dans le détail, mais aujourd'hui, quels sont les principaux enjeux RSE, hein, sociaux, sociétaux, environnementaux, auxquels ce Rouge-Gorge fait face ?
Alors, il y a de nombreux enjeux. On va dire que peut-être l'un des principaux enjeux va concerner le produit, puisque l'impact de Rouge-Gorge en termes de carbone se situe à 82% sur la fabrication de nos produits. Donc évidemment, ça c'est l'enjeu majeur. Comment on va réduire l'empreinte carbone de nos produits ? Il y a un gros enjeu.
Comment vous ressortez ce chiffre ? Vous avez
fait On a fait un bilan carbone. Ouais. On a réalisé un bilan carbone.
Les ACV peut-être aussi.
Exactement. Okay. Mais ceci étant, c'est le même chiffre pour tout le secteur du textile. Hein. On est tous sur le même taux. On sait que c'est la fabrication du produit qui génère le plus de CO2. Un deuxième enjeu va être la transparence, la traçabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très attendu par nos consommateurs, notamment. Là, en fait, on va dire que pour Rouge-Gorge, c'est relativement simple parce qu'on a un petit parc fournisseur. On n'a que 27 fournisseurs de rang 1, donc c'est 27 fabricants qu'on connaît tous directement. On n'a pas d'intermédiaire, on n'a pas d'agent. Donc, on a une relation de grande proximité, souvent de très longue date avec ses partenaires. Donc, cette transparence et cette traçabilité est très simple à faire, d'autant qu'on nomine les composants du soutien-gorge et enfin, de tous nos produits. Ça veut dire qu'en fait, quand on fait un dossier de style, un dossier technique, la styliste et la modéliste vont donner au fabricant le détail de chaque composant. Donc, on va acheter tel élastique, tel cache-armature, telle armature, telle matière. Et pourquoi on les aura choisis ? Parce qu'on les aura testés en amont. On sait que ces matériaux garantissent le grade de qualité de rouge-gorge. Donc, on est capable aujourd'hui d'auditer 100% de nos partenaires de rang 1 et de rang 2, ce qui est vraiment une gageure dans l'industrie du textile, parce que souvent, c'est assez complexe. La supply chain est très difficile à remonter. Donc, ça, c'est l'enjeu vraiment transparence, traçabilité. L'enjeu qualité, durabilité, j'en ai parlé un peu avant, mais c'est extrêmement important. C'est certainement le pilier RSE le plus fort de Rouge-Gorge en termes d'engagement environnemental. On a vraiment pris ce pan-là depuis la création de la marque, c'est de proposer un produit qui va durer dans le temps, que notre cliente va pouvoir porter longtemps. Donc, si la matière ne passe pas le grade de qualité, on ne va pas la choisir. Ce qui peut expliquer qu'on a peut-être moins de fibres recyclées que d'autres acteurs du secteur, parce qu'aujourd'hui, les matières recyclées, on en est quand même au début de l'innovation matière, et elles ne passent pas toutes les grades de qualité. Donc, si ça ne passe pas le grade, il nous faut un minimum de 4 sur 5. Si on n'a pas 4, on ne va pas choisir cette matière, même si elle est recyclée. On va plutôt choisir une matière conventionnelle parce qu'on sait que le produit va pouvoir durer plus longtemps et que la cliente va pouvoir le porter plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment essentiel.
Puisqu'on parle de matière, il me semble que depuis peu, vous êtes certifié Ecotex.
Absolument.
Sur l'ensemble.
Ouais,
est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette démarche, comment ça s'est passé, quelles sont les exigences, sans trop rentrer dans les détails, mais comprendre aussi ce qui vous a poussé à aller dans cette certification.
Donc, le label Ecotex, c'est un label qu'on voit quand même beaucoup sur les vêtements, qui a d'abord été très utilisé pour les vêtements pour enfants, notamment bébés, parce qu'en fait, ça garantit l'innocuité des produits. Donc, ça garantit vraiment la santé, ça prouve, enfin en tout cas, ça garantit qu'il n'y a pas de substance nocive pour la santé sur le produit. Et on va venir décortiquer tous les composants d'un produit. Donc, en fait, c'est bien d'avoir des produits qui sont labellisés Ecotex, ce qui est le cas à plus de 80% de notre collection. Ça veut dire que toute la chaîne a été labellisée Ecotex et que le produit, toutes les matières qu'on utilise sont labellisées Ecotex. Donc, ça veut dire qu'il y a aucun risque pour la santé, mais le fait que Rouge-Gorge, que l'entreprise soit labellisée Ecotex, ça va vraiment encore plus loin, parce qu'on a aussi de facto transmis au label le détail de tous nos protocoles, de tous nos grades de qualité. On a vraiment été hyper transparent dans toute notre façon de faire sur la notion de matière, de sourcing, et ils ont pu, grâce à ça, nous labelliser. Et on n'est pas très nombreux à être labellisés en tant qu'entreprise.
Tout à fait. Alors, nous, on travaille aussi avec d'autres acteurs comme La Redoute. Et je sais que, typiquement, dans le cahier des charges Go4Good, qui viennent des quadrilles, mais qu'utilise aujourd'hui La Redoute, il y a cet enjeu, justement, de produits responsables. Et il faut que, effectivement, les produits aient plus de 50% de labels de ce type-là. Donc, oui. Vous êtes clairement dans l'air du temps aujourd'hui par rapport à l'attente, notamment aussi des distributeurs qu'on peut retrouver sur le marché et des e-commerçants. Donc, pour résumer, la fabrication du produit, la transparence, la traçabilité, la qualité, la durabilité, d'autres enjeux.
Donc ça, c'est vraiment pour le scope environnemental. Okay. Et sur l'aspect...
On peut parler de carbone pour l'instant.
Oui, et la réduction, évidemment, la réduction du carbone. Et là encore, on sait que 82% de l'impact, c'est le produit. Donc le fait de pouvoir garantir une durée de vie, pour nous, c'est la façon la plus forte de diminuer l'impact carbone, mais ça, il faut réussir à le prouver. Donc, on est en train de faire des tests avec l'IFTH pour pouvoir justement donner à notre cliente un nombre peut-être de lavages grâce au, enfin, jusqu'auquel son produit n'aura vraiment aucune dégradation. Et une autre piste qu'on est en train de tester, c'est tout récent, c'est l'upcycling, donc la lingerie reconditionnée, puisque 82% de l'impact, c'est la fabrication. Proposer un produit qui a déjà été utilisé, porté, donc en seconde main, ben finalement, en fait, on diminue drastiquement l'impact carbone. Donc, depuis le mois de novembre, dans deux boutiques, on a un corner de lingerie upcyclée. On a collaboré avec une start-up lilloise qui s'appelle Abracadabra Upcycling. Et donc, on distribue des soutiens-gorge exclusivement de toutes les marques. On n'a exclu aucune marque. Et donc, on propose comme ça, on est un peu les pionniers sur ce sujet. Et Tam aussi a un corner à Lyon de lingerie upcyclée. C'est sur une démarche plus sociale puisque l'argent collecté est remis à des associations. Nous, c'est vraiment dans un prisme commercial pour tester en fait une nouvelle façon, un nouveau business model et de trouver des leviers de croissance ou en tout cas à minima de maintien de l'activité en étant bien moins impactant.
C'est quand même un sacré challenge aujourd'hui de proposer des dessous en reuse, comme on dit. Donc, ouais. Donc c'est doit être assez amusant. Est-ce que on a pu voir nous certaines tendances ou initiatives comme, il me semble que c'est Petit Bateau qui tente la location de vêtements. Est-ce que c'est des choses que vous avez en réflexion aujourd'hui dans les cartons, j'ai envie de dire. On est à l'approche de Noël ou pas.
Oui, oui, bah évidemment qu'on a un peu balayé toutes les possibilités de l'économie circulaire et la location fait partie des pistes qu'on creuse. Il y a des produits sur lesquels ça pourrait faire totalement sens, comme par exemple peut-être la collection mariage, la collection maternité, peut-être même la collection post-opératoire, qui sont vraiment sur des moments de vie très spécifiques. Et il y a des acteurs partenaires avec lesquels on pourrait clairement tester ce business model. On est vraiment dans cette logique de test and learn, puisque les réponses aux questions, personne ne les a. Est-ce que la lingerie seconde main s'adapte à la lingerie ? Comment va réagir la cliente ? Comment même nos vendeuses vont réagir à ce type de nouveau business ? Personne n'a la réponse à ces questions. On a tous des avis, et donc le fait de tester, finalement, c'est le meilleur moyen d'avoir les réponses.
Et Phil, est-ce que vous avez fait des études ? Est-ce que vous ressentez aujourd'hui, au point de vue de vos consommateurs, ou non plus aussi peut-être de vos vendeurs ou vendeuses en magasin, une attente sur ces sujets, concrètement ou pas ?
Alors, c'est compliqué à dire. La principale attente, elle est vraiment sur la transparence et la certitude que le produit est fabriqué dans de bonnes conditions et qu'il a une innocuité totale. Donc, sur l'axe santé, ça, réellement, il y a une attente, puisque quand on interroge nos clientes, c'est vraiment ce qui ressort, même si aujourd'hui, on a vraiment très peu interrogé nos parties prenantes, et donc on a hâte de rentrer dans cette démarche de labellisation pour avoir vraiment leur ressenti. En termes de vente, on ne voit pas aujourd'hui, sur les collections dites plus responsables, de boost de vente par le fait que ce produit soit éco-conçu. Ça ne va pas être un critère forcément d'achat. Le critère d'achat va rester. En plus, on est quand même sur un produit particulier, la lingerie. Donc, ça va rester sur le confort, la possibilité aussi de trouver sa taille, parce que c'est un produit où il y a une très large grille de taille. Le style, vraiment les caractéristiques techniques du produit. Après, le fait que la matière soit éco-véro ou éco-nil est moins impactante, ça va être un vrai plus, mais il y a quand même un réel enjeu, c'est qu'il faut aujourd'hui, donc on a 600 collaboratrices en magasin, il faut que ces 600 collaboratrices en magasin soient capables de retranscrire en fait des éléments qui sont souvent très techniques, qu'elles ne connaissent pas bien. Donc, il y a tout un enjeu de formation, de sensibilisation de nos équipes pour que ça arrive jusqu'à la cliente finalement.
Et alors justement, on parle de clients, on a vu certaines publicités comme Darjeeling, qu'on fait quand même pas mal parler d'elle, sur sortir des stéréotypes conventionnels, j'ai envie de dire, ou même anciens maintenant, hein, en termes de modèles sur les publicités. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que ça va être, c'est une mode et puis qu'on va revenir à des standards un peu plus conventionnels ? Est-ce que vous pensez qu'il y a les consommatrices vont plus se retrouver dans ce type de communication ? Quel est votre point de vue sur ces sujets-là ?
Alors, moi, mon point de vue, c'est que c'est pas une mode. et heureusement qu'il était temps que les marques prennent le sujet de l'inclusion, de la diversité sous toutes ses formes et montrent d'autres rôles modèles et d'autres images. Donc ça faisait partie des enjeux que je voulais souligner pour Rouge Gorge, puisqu'on a parlé des enjeux environnementaux, mais dans les enjeux sociaux et sociétaux, il y en a un qui est vraiment crucial, c'est contribuer à améliorer la position des femmes dans la société et aussi les notions d'estime de soi, de confiance en soi, de body positive. C'est des termes qu'on entend beaucoup, mais qui parfois dans les faits, il y a encore quand même de quoi faire. Et donc moi je salue et j'applaudis à deux mains l'initiative de Darjeeling, parce qu'ils se sont clairement positionnés pour lutter contre l'âgisme, pour lutter contre l'âgisme avec cette campagne qui a fait parler, mais qui est utile. Après, ce qui est important, c'est que chaque marque prenne le sujet qu'elle souhaite. On ne peut pas aller sur tous les fronts, tous, sinon on se disperse et je pense qu'on perd de la force dans le message. Et il faut le faire aussi avec notre ADN et notre façon de communiquer en étant hyper honnête, transparent et sincère. Et donc la démarche de Rouge Gorge sur l'inclusion et la diversité, elle est vraiment 360. C'est à la fois effectivement sur les produits. En fait, il faut apporter des preuves de ce qu'on dit et pas uniquement de l'image. La preuve produit, c'est en ayant des gammes très larges, à la fois en termes de taille, en termes de style, en termes de prix aussi, pour être accessible. C'est aussi des gammes pour tous les moments de vie, puisqu'on a la collection pour la maternité, pour le post-opératoire après un cancer du sein. On a des collections qui sont ultra confort, des collections qui sont ultra sexy. Quand on ne sait pas faire, on interroge et on prend des marques partenaires, comme Abracadabra sur l'upcycling, comme Evelyn & Bobby, c'est une marque canadienne sur les bonnets très profonds, sans armature, parce que c'est très technique et on ne sait pas le faire, pour justement apporter une réponse très professionnelle à notre cliente sur tous ses besoins. Ça va concerner l'image, évidemment, avec des castings beaucoup plus inclusifs, plus de diversité dans ce qu'on renvoie à notre cliente. Et à la rentrée de janvier, il y a une nouvelle collection qui va sortir qui s'appelle Courbe Plus, qui a été vraiment conçue pour les bonnets profonds, qui va commencer au bonnet D, parce que généralement un soutien-gorge en fait va aller du bonnet A au bonnet D, et puis un autre modèle va aller peut-être du bonnet B au bonnet G, mais c'est la même référence qui va être élargie en termes de taille. Là, les produits ont été spécialement conçus à partir du bonnet D, avec vraiment un souci de correspondre aux besoins en termes de confort, de maintien, puisque là on touche aussi à la santé. Quand on a un bonnet profond, les seins sont très lourds, donc il faut être bien maintenu.
Est-ce que vous sentez une évolution aujourd'hui du corps de la femme, finalement, sur ou des modèles que vous pouvez suivre, entre guillemets?
Alors on a effectivement l'évolution des corps des femmes, et donc dans les standards qu'on voit, on est bien loin de la réalité, hein, puisque en tout cas, chez Rouge Gorge, les tailles qu'on vend le plus, c'est les bonnets C, D, et plutôt les tailles 42 que les tailles 36, hein, bien évidemment. Donc, même en termes de représentation, c'est vraiment important, tout en gardant le côté vraiment esthétique, parce qu'on reste une marque de lingerie avec un acte d'achat qui doit rester aussi plaisir. Et c'est tout à fait compatible. Depuis 2 ans, on ne retouche plus nos photos. On va travailler sur les ombres et les lumières pour que le produit soit suffisamment visible, et on va peut-être retoucher la couleur du produit s'il y a besoin, mais on ne touche plus du tout les corps ni ce qu'on pouvait donner comme défaut, qui pouvait être genre les vergetures ou les petits boutons. Ça, on ne les enlève plus pour que justement les femmes, les jeunes filles puissent se rendre compte que leur corps est parfait, puisqu'elles voient d'autres types d'images dans les médias. Non, c'est vraiment un rôle qui est essentiel, et ça ne va pas s'arrêter ni au produit, ni à la collection, ni à l'image, mais c'est un travail qu'on doit faire aussi avec le service des ressources humaines, puisqu'il faut aussi que l'entreprise soit plus inclusive. On sait qu'on a un enjeu sur le handicap, qui n'est pas simple, mais qu'on est en train de travailler de revoir aussi nos façons de recruter pour être alignée. Voilà, c'est ce qu'on appelle nous la symétrie des attentions, mais cette notion d'inclusivité et de diversité, elle doit être travaillée par tous les métiers pour que, en plus justement, on puisse pas être nous taxer de social washing, quoi. À partir du moment où on apporte les preuves de ce qu'on fait dans tous les domaines, après on peut pas empêcher les gens de dire, et la campagne d'Argeling, elle a fait parler. Moi je suis pour, mais je sais qu'en interne il y en a qui étaient vraiment contre, mais en tout cas ils ont joué un rôle.
Et si je peux rebondir là-dessus, est-ce que aujourd'hui vous sentez des tendances dans votre marché ? Alors peut-être soit celui de marché du je sais pas comment on dit, du soutien-gorge ou de l'intime, ou globalement sur le marché des fringues entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez des tendances ?
Ouais, il y a des grandes tendances. Alors une qui est pas récente, mais qui a été vraiment très forte pendant le confinement et qui continue, c'est le no-bra. Donc c'est le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Donc ça oui. S'est vraiment beaucoup vu pendant le confinement, et il y a des tas de femmes qui ont décidé de rester comme ça parce que c'est quand même confort pour certaines, en tout cas. Donc ça, c'est une tendance de fond. Nous, on l'a pas pris vraiment comme on le suit, mais on se dit qu'on a quand même une femme avec une poitrine plus généreuse que d'autres marques en moyenne. Donc le no-bra, c'est quand même pas pour tout le monde, mais c'est une tendance, et elle est là. La tendance du no-gender, qui est valable à la fois sur le prêt-à-porter, mais aussi en lingerie. Et donc, il y a des maisons. Hein,
du quoi, est-ce que
le no-gender, donc le fait...
no-gender,
ouais.
Okay, donc, pas d'avoir de genre.
Voilà,
okay.
Pas de genre. Et Tam, là aussi, je trouve, joue un rôle important en proposant une collection de lingerie qui puisse être portée par les hommes, par les femmes, indifféremment. Donc... c'est pas ce que Rouge Gorge c'est pas notre credo, et ça colle pas avec la marque, avec son ADN et avec ce qu'on fait. Mais ceci étant, ça veut dire que ce signal aujourd'hui, qui est peut-être signal faible, on doit le suivre parce que il va très certainement continuer à pousser, et donc ça voudra dire comment on le traduit nous pour notre marque demain. Des tendances en lingerie beaucoup, mais c'est le confort, quoi, le fait que de plus de vouloir choisir entre se sentir belle, sexy, séduisante, en même temps confort, une lingerie qui va suivre la femme active dans toute sa journée, voilà, de plus être en représentation, mais de disposer de tout un panel de produits. Et donc aujourd'hui, on a des produits qui répondent à ça totalement. Donc, c'est très intéressant parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y a des tendances de fond, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais il y a des choses qui vont ancrer de manière très forte la consommation, et très certainement qu'une tendance qui est très, très présente en prêt-à-porter, qui est la seconde main, bah voilà, quid de la lingerie. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir lancé ce test, parce que même si aujourd'hui, c'est des petits volumes de vente, eh ben, ça nous permet d'apprendre. Et puis, ça nous permet de mettre un premier pied à l'étrier, quoi. Parce que je pense qu'il y a 15 ans, 10 ans, le prêt-à-porter se disait « Non, mais bon, ça va, les plateformes, la seconde main, jamais. » Et puis, bah, en fait...
Ça bouge. Et si vous, pour bientôt conclure ce podcast, si vous aviez un chantier à nous communiquer sur l'année 2023, c'est lequel, aujourd'hui, le prioritaire ?
Alors, il y a un énorme chantier qui suit la loi AGEC, qui est l'affichage environnemental. Voilà. Donc ça, c'est certainement le plus gros chantier, parce que le plus compliqué, puisque tout le monde n'est pas d'accord, et donc on attend un peu des précisions du législateur, mais on sait que ça va être complexe. En lingerie, un soutien-gorge, c'est 30 pièces à assembler. C'est des poids de matière qui sont parfois très différents, c'est-à-dire que si on regarde la matière principale d'un soutien-gorge, ça peut être la dentelle, mais si on regarde en termes de poids, ça va être peut-être la coque, parce qu'elle va peser plus lourd. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir tracer ? Quelle information on va devoir donner ? Ça va être très complexe. Et donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même un consortium de marques de lingerie qu'on a initié il y a 2 ans. Et donc, qui travaillent ensemble sur notamment ces sujets pour être plus forts et pour que ce soit plus pertinent. Surtout pour le consommateur, quoi. Donc, il y en a beaucoup, hein, des sujets. C'est compliqué d'en donner qu'un, mais si on avait qu'un sur l'année, ce serait certainement celui-ci.
Amélie, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs ?
Alors, ben, peut-être la curiosité, l'ouverture d'esprit. Parce que c'est généralement grâce à des lectures, des rencontres, des choses qui au départ avaient peut-être rien à voir avec ce qu'on avait prévu, qu'on a des idées qui arrivent et que comme on a un nouveau monde à inventer, un nouveau business model à inventer, une nouvelle façon de vivre, bah, il va falloir faire preuve de beaucoup de créativité, je pense. Et donc, ça permet en plus de rester... un peu dans la joie et dans l'espoir, donc la curiosité et l'ouverture.
Et est-ce que vous auriez une lecture, un podcast ou autre à nous recommander ?
Alors, pas de lecture ni de podcast précisément, mais une découverte récente de la semaine dernière. Ce sont les travaux de Joanna Macy, qui est américaine et qui a travaillé dans les années 70 avec des activistes antinucléaires. Et elle s'est aperçue à quel point ils étaient fatigués, épuisés d'être militants. Et donc, elle a élaboré différentes techniques et notamment un atelier qui s'appelle « Le travail qui relie » et qui est sous forme d'une spirale. Et donc, on va en groupe passer les différentes étapes. Et l'objectif, c'est de se remettre en mouvement, retrouver de l'énergie, se reconnecter au groupe, au vivant. Et donc, c'est vraiment très aidant. Et donc, en cette fin d'année où je sens quand même une fatigue générale de moi, mais de mes proches et aussi de mes pairs sur ce sujet, ces sujets de la RSE qui sont passionnants, challengeants, mais parfois fatigants, souvent même, bah, peut-être que Joanna Macy et le travail qui relie peut donner un peu d'aide, quoi, une bouffée d'oxygène.
Parfait. Merci beaucoup, Amélie, pour ce témoignage. Nous recevrons dans notre prochain podcast Alix Siro qui travaille au groupe Electrodépôt. Ça reste dans la famille, comme on dit, la famille Mullier.
Exactement. Hein.
Et donc, nous aurons la chance de pouvoir aussi analyser la stratégie RSE d'Electrodépôt et les divers chantiers qui ont été mis en place récemment. Donc, suite au prochain épisode. Merci à tout le monde et à très bientôt.